C'est le don par excellence. Alors je prends tout de suite le 7 contrat. En Isaïe, nous lisons, voyez bien, toujours, hein, c'est le lieu de tous les pères de l'Église et de saint Thomas. En Isaïe, nous lisons, sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence. Voyez la note 95. C'est intéressant parce que c'est important de comprendre cet enracinement, si vous voulez, de ce que représente ces dons du Saint-Esprit et par rapport à ce que représente justement le point de vue de la tradition. Alors, je regarde avec vous le numéro. Voici ce qui nous est dit. Saint Thomas invoque ici le texte messianique d'Isaïe, chapitre 11, verset 2, qui est à la base de toute l'élaboration théologique de la doctrine des dons. On sait que la Vulgate, suivant la traduction des Septante, dédoublait un des traits du Saint-Esprit, énuméré par le texte hébreu, et aboutissait ainsi à la formule devenue classique du septénaire. Spiritus sapientiae, spiritus intellectus, spiritus concilii, spiritus fortitudinis, spiritus scientiae pietatis, et replebit eum spiritus timoris domini. L'esprit de sagesse en cette énumération est nommé le premier, ce qui invitera à lui donner en elle, à lui donner un rôle éminent et privilégié dans l'organisme des sept. Donc, vous voyez, c'est tout simplement le rappel du texte d'Isaïe. Mais ce qui m'intéresse, et la note aurait pu le souligner, c'est que les dons sont donc énumérés à partir du Messie, à partir de celui qui doit venir, qui est le Messie. Et donc, pour nous, à partir de Christ. C'est ça que c'est une chose très très belle, de regarder à travers le mystère de Jésus les dons du Saint-Esprit. Si on peut, on le fera pour éclairer davantage ce mystère du don. Et regardez en Marie. C'est une des très belles choses quand vous lisez l'Écriture, quand vous lisez l'Évangile, la fiche don de sagesse. À quel moment Jésus est-il mu par le don de sagesse? À quel moment Jésus est-il mu par le don de sagesse? À quel moment Jésus est-il mu par le don de piété? À quel moment Jésus est-il mu par le don de crainte? Les sept dons du Saint-Esprit habitaient le Christ. Et Jésus vivait sous la mouvance de l'Esprit. Et donc, tous les gestes du Christ qui nous sont montrés dans l'Écriture relèvent des dons du Saint-Esprit. Vous pouvez être sûr, ça. Et donc, il faut déterminer, à travers les gestes de Jésus, les différents dons. C'est ça la lecture de l'Écriture en profondeur, en nous servant des dons du Saint-Esprit. Ça nous aide, ça nous éclaire, ça. Vous voyez, et ceci est particulièrement visible dans l'Évangile de saint Jean. Parce que saint Jean nous montre les différentes activités de Jésus sous cette mouvance des dons du Saint-Esprit. L'agneau qui est mu par l'Esprit, l'époux qui est mu par l'Esprit. Mais tous les évangélistes, hein, mais c'est spécialement net dans l'évangile de saint Jean, de découvrir comment Jésus vit des dons du Saint-Esprit. Alors cherchez dans votre cœur, et nous le verrons ensemble, à quel moment Jésus vit-il du don de sagesse. Vous pouvez toujours dire à la croix, parce qu'à la croix, les sept dons sont présents. C'est la grande manière de regarder le mystère de la rédemption. Et c'est peut-être une des manières pour nous, vous voyez, cette année sainte, de considérer le mystère de la rédemption comme l'œuvre des sept dons du Saint-Esprit. Et c'est vrai que le mystère du Christ crucifié, c'est celui qui est mu par les sept dons du Saint-Esprit. Et donc, il est mu par le don de sagesse. Alors, à la croix, que réalise le don de sagesse? puisque le don de sagesse, bienheureux les pacifiques. Jésus établit la paix à la croix. Et alors le don de sagesse en Marie, les 7 dons en Marie, là aussi on peut considérer que tout ce que Marie a vécu, elle l'a vécu sous le don du Saint-Esprit. Ça ne peut pas être autrement. Nous ne pouvons pas dire ça. Je ne peux pas dire que tout ce que je le vis sous la violence des dons du Saint-Esprit. À certains moments, oui. Mais pas tout le temps, hélas. On le voudrait bien, tout le temps sous la mouvance des dons du Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, ce serait merveilleux. Il y aurait cette souplesse merveilleuse à l'égard de l'Esprit Saint. Selon le philosophe. Alors vous voyez, ça c'est extraordinaire. Voilà, Isaïe et le philosophe qui sont mis l'un à côté de l'autre, c'est bien. Ça c'est du saint Thomas pur. Hein. C'est un scandale et c'est merveilleux. Ça dépend comment vous le regardez. Il y a 2 lunettes différentes. Selon le philosophe, c'est le rôle du sage de considérer la cause la plus élevée. Par elle, en effet, on peut juger de tout avec une grande certitude. Et c'est d'après elle qu'il faut tout ordonner. Le propre du sage, c'est d'ordonner. On ordonne tout en fonction de la cause ultime, de la cause la plus élevée. Or, la cause la plus élevée peut s'entendre d'une double façon, ou bien d'une façon absolue, ou bien dans un certain domaine. Celui qui connaît la cause la plus élevée en un certain domaine peut grâce à elle juger et ordonner tout ce qui appartient à cet ordre de choses. Il est sage en ce domaine. Par exemple, en médecine ou en architecture, les exemples chéris de saint Thomas, c'est toujours la médecine et l'architecture. Donc, par exemple, en médecine et architecture, on comprend très bien le reste. Comme un sage architecte, j'ai posé les fondations. Écrit saint Paul. Comme un sage architecte, j'ai posé les fondations. Un architecte qui fonde sans mettre les fondations est un triste architecte, parce que ça ne tiendra pas. Mais celui qui connaît la cause la plus élevée, d'une manière absolue, c'est-à-dire Dieu, on dit qu'il est tout simplement sage, dans la mesure où il peut, selon les règles divines, juger et ordonner toutes choses. Or, c'est le Saint-Esprit qui donne à l'homme d'avoir un tel jugement. Le spirituel juge toutes choses, écrit saint Paul, car l'Esprit scrute tout, jusqu'aux profondeurs divines. Il est donc clair que la sagesse est un don du Saint-Esprit. Ça n'a rien prouvé. Hein. Sachant qu'il existe un don de sagesse, j'explique ce qu'est ce don de sagesse. C'est pour ça qu'il faut faire trop d'attention quand on dit des choses comme ça. Parce que ce n'est pas du tout prouvé qu'il existe un don de sagesse. On ne peut pas prouver qu'il existe un don de sagesse. C'est la foi qui me dit qu'il y a un don de sagesse. Mais je peux essayer de faire comprendre qu'est-ce que c'est que ce don de sagesse. Quel est le rôle propre du don de sagesse? Alors, je l'explique de cette manière, en montrant le rôle propre de la sagesse. La sagesse, c'est ordonner toute chose. La sagesse, c'est connaître la cause ultime. Or, de fait, par la charité et par la foi, je connais la cause ultime qui est Dieu. Et je suis uni à cette cause ultime. Et je peux donc, à partir de cette cause ultime, juger toute chose. Le spirituel juge toute chose. Écrit saint Paul. Donc si le spirituel juge toute chose, c'est qu'il est sous la mouvance du don de sagesse. Mais le mystique, le spirituel. Car l'esprit scrute tout jusqu'aux profondeurs divines. Il est donc clair que la sagesse est un don du Saint-Esprit qui nous permet de scruter toute chose. Juger et ordonner, discerner et ordonner, voilà ce que c'est que la sagesse. Tout ordonner en vue de la fin. Il faut bien saisir ce que c'est que cette possibilité qu'on a au point de vue humain. quand vous saisissez une cause, vous pouvez, à partir de cette cause et dans la lumière de cette cause, voir tout ce qui vient après cette cause, l'ordre qui provient de cette source, et comprendre à partir de là ce que représente cet ordre qui m'est donné à partir de mon union avec la cause suprême, donc de mon union avec le Père. Alors, je vais regarder tout de suite maintenant, si vous voulez, la première objection. Non, semble-t-il. Oui. L'objecteur est toujours de mauvaise humeur, hein, commence toujours par non. En effet, les dons sont plus parfaits. Remarquez que saint Thomas ne dit pas non, hein. C'est pas la peine, mais ça c'est la traduction. En français, c'est plus utile, parce qu'on n'aurait pas compris. En effet, les dons sont plus parfaits que les vertus. Nous le savons, nous l'avons vu plus haut. Ah, ça c'est la fameuse chose, je ne l'ai pas vu tout à l'heure avec vous. C'est intéressant de se poser la question, est-ce que les dons sont plus élevés que, ça, que les vertus? Ça c'est une des questions que saint Thomas pose dans la Prima Secundae. Est-ce que les vertus sont plus élevées que les dons? Vous voyez, savoir ça. Fameuse querelle, est-ce que les dons du Saint-Esprit sont plus élevés que les vertus théologales? Est-ce que les dons du Saint-Esprit sont plus élevés que les vertus morales? La position de saint Thomas est très, très facile à comprendre. Hein. Les dons sont entre les vertus morales et les dons et les vertus théologales. Rien n'est au-dessus des vertus théologales. Puisque les vertus théologales nuisent directement à Dieu quant à leur objet. Mais les vertus théologales peuvent être aidées quant à leur exercice. Mais pas quant à leur objet. Donc la vertu théologale est supérieure aux dons. C'est sûr. Et les dons sont au service des vertus théologales. Pour permettre aux vertus théologales d'aller jusqu'au bout de leur exigence. C'est-à-dire de ne pas s'arrêter en chemin, en s'arrêtant à un conditionnement humain. Oui. Quand on a dit à propos, vous savez, à propos de ce qu'a dit le cardinal Ratzinger, on a fait un petit commentaire astucieux en disant, oui, Ratzinger rappelle que lorsqu'il s'agit de l'objet de la foi, c'est plus important de regarder ce que la foi nous enseigne que de regarder la manière dont on va transmettre la foi. C'est vrai. La foi, c'est objectif, ça me fait regarder Dieu. La manière dont je transmets la foi n'est plus le point de vue de la vertu théologale. Humaine. Ou c'est une méthode. Mais ce n'est pas une vertu théologale. La vertu théologale me fait regarder Dieu. Et le don est au service de la vertu théologale pour permettre à la vertu théologale d'aller jusqu'au bout de ses exigences dans son adhésion à la vérité première révélée. Et c'est très important de se rappeler ça parce que c'est au fond toujours la même chose. Hein. Les vertus théologales nous mettent au-delà de ce qui est d'humain. L'humain, c'est le conditionnement. Alors quand je reste viré sur le conditionnement, quand je reste fixé sur le conditionnement, ma manière de transmettre ma foi, ce n'est pas les vertus théologales. C'est le vent. Le souffle. Alors, je vois tout de suite la... Ah, par rapport aux vertus infuses, les vertus infuses morales sont inférieures aux dons. Parce que les dons sont accrochés directement à la charité. Vous voyez ? Donc, les dons sont supérieurs. Il y a toutes les vertus morales, puis les dons et les vertus théologales, si vous voulez avoir la hiérarchie de valeur. Vous voyez ? Et alors, les vertus morales, acquises ou infuses ? Et c'est tout simplement parce que les dons prennent leur source directement dans la charité. Les sept dons proviennent de la charité. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est les sept flammes de la charité. Les sept souffles de la charité. C'est les sept flammes. Je crois qu'on peut dire les sept flammes de la charité, c'est les sept dons. Et c'est pour ça que c'est intéressant parce que ça nous permet, voyez, de comprendre en plénitude ce que c'est que la charité. l'amour de Dieu en moi a, et cette forme, il a sept formes différentes. Il implique la sagesse, il implique l'intelligence, il implique la science, il implique la piété, il implique la crainte, les sept dimensions de l'amour de Dieu. Les sept dimensions, c'est là où ce serait intéressant, vous voyez, de regarder ces sept dimensions de l'amour divin, septiforme, avec la métaphysique de l'amour au niveau métaphysique, pour comprendre les modalités de l'amour et les septiformes de la charité. Et ça, je ne le fais pas, mais c'est une chose qu'on peut faire. Et c'est intéressant parce que ça rapproche deux points de vue différents qui sont complètes, tout simplement. Donc, voyons la première objection. En effet, les dons sont plus parfaits que les vertus. Nous l'avons vu plus haut. Or, la vertu ne se réfère qu'au bien, ce qui fait dire à saint Augustin que personne ne fait un mauvais usage des vertus. À plus forte raison, en est-il ainsi des dons du Saint-Esprit, qui se réfèrent donc au seul bien. Mais la sagesse se réfère aussi au mal. Saint Jacques ne parle-t-il pas d'une sagesse terrestre, animale, diabolique ? La sagesse ne doit donc pas être placée parmi les dons du Saint-Esprit. Très très jolie petite objection, vous voyez. Quand vous regardez dans Saint Jacques, 3, verset 15, c'est vrai, il y a des fausses sagesses. Il y a des faux éclairages de la sagesse. Alors voici comment saint Thomas va répondre. Une chose est dite bonne de deux façons. Bonum dicitur duplicitae. D'une première façon, lorsqu'elle est vraiment bonne et absolument parfaite. D'une autre façon, par similitude, on dira qu'une chose est bonne lorsqu'elle est parfaite en malice. Elle est parfaitement mauvaise. C'est très bien ça. Ainsi, l'on parlera d'un bon voleur ou d'un voleur parfait, comme le montre le philosophe. Ça t'a même mieux s'appuyer sur l'expérience du philosophe que sur sa propre expérience. Non, ça... C'est très très joli ça. De même qu'il existe une cause suprême dans le domaine des choses vraiment bonnes, c'est le souverain bien. La fin ultime dont la connaissance rend l'homme vraiment sage. De même, il existe, dans le domaine des choses mauvaises, une chose à laquelle les autres se réfèrent comme à la fin ultime. L'homme qui la connaît est un sage dans l'accomplissement du mal. Ils sont sages pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Jérémie. Quiconque, en effet, se détourne de la juste fin, se donne nécessairement une fin mauvaise. On n'agit jamais que pour une fin. Quand on met sa fin dans les biens terrestres, la sagesse est une sagesse terrestre. Si c'est dans les biens corporels, la sagesse est une sagesse animale. Si c'est dans quelque supériorité, la sagesse est une sagesse diabolique. Car on imite l'orgueil du diable, qui est, selon Job, le roi de tous les fils de l'orgueil. La sagesse démoniaque, c'est le premier dans cet ordre-là. Et alors on imite l'orgueil du diable. Donc vous voyez, la réponse à Thomas est très simple. Comprenez bien. C'est une manière très polie de dire, espèce d'imbécile, tu confonds complètement deux choses. Hein. Mais on peut parler d'une sagesse bonne, on peut parler d'une sagesse mauvaise. Parce que qui dit sagesse dit un sommet, dans l'ordre de la connaissance. Alors il peut y avoir un sommet dans l'ordre de la perversion, de la connaissance mauvaise. Une habileté particulière dans le mal, on peut dire sagesse. Et vous voyez qu'à ce moment-là, le mot est dit métaphoriquement, par mode de similitude, comme dit saint Thomas. Donc c'est métaphorique. n'est pas la vraie sagesse. La vraie sagesse, elle est celle qui nous lie à la cause ultime, donc à Dieu. Donc l'autre est une fausse sagesse, c'est une imitation de sagesse. Ce n'est pas une véritable sagesse. Seconde objection, d'après saint Augustin, la sagesse est la connaissance des choses divines. Or, la connaissance des choses divines dont l'homme est naturellement capable relève d'une sagesse qui est une vertu intellectuelle. Quant à la connaissance surnaturelle des choses divines, elle appartient à la foi, qui est une vertu théologale. Cela nous est apparu plus haut. Il faut donc dire que la sagesse est une vertu plutôt qu'un don. Ça, saint Thomas parle là en tant que philosophe. Au point de vue philosophique, la sagesse est une vertu. Réponse. La sagesse qui est un don est différente de celle qui est une vertu intellectuelle acquise, car celle-ci s'obtient par l'effort humain et celle-là, au contraire, descend d'en haut, comme le dit saint Jacques. Elle diffère aussi de la foi, car la foi donne son assentiment à la vérité divine, considérée en elle-même, tandis que c'est le jugement selon la vérité divine qui appartient au don de sagesse. Ça, c'est très important de bien souligner. C'est le jugement selon la vérité divine qui appartient au don de sagesse. Le sage discerne, il juge, tandis que le croyant adhère. Le don de sagesse présuppose donc la foi, car il faut d'abord connaître pour pouvoir bien juger, comme le dit le philosophe. Il faut d'abord connaître pour pouvoir bien discerner. Donc il suffit de s'entendre. Troisième objection. Nous lisons au livre de Job. La crainte du Seigneur, voilà la sagesse. S'écarter du mal, voilà l'intelligence. Quant à l'édition des Septante, dont se sert saint Augustin, elle porte la piété, voilà la sagesse. Or, la crainte, aussi bien que la piété, sont déjà placées parmi les dons du Saint-Esprit. Il n'y a donc pas lieu de compter la sagesse comme un don différent des autres. Là, c'est des petites traditions particulières. La piété, qui appartient au culte divin, donc relève de la vertu de religion, la piété qui appartient au culte divin rend l'homme manifeste dans la mesure où, par le culte que nous rendons à Dieu, nous protestons de notre foi. Donc nous attestons de notre foi. De même, la piété rend la sagesse manifeste. Aussi dit-on que la piété est la sagesse. Il en est de même pour la crainte. C'est en effet l'homme qui craint Dieu et qui l'honore, qui a aussi un jugement juste en ce qui concerne les choses divines. Donc vous voyez, ça n'a pas beaucoup d'importance là. C'est simplement montrer que lorsque nous parlons de la sagesse divine, dans du Saint-Esprit, nous faisons allusion à une connaissance d'un type ultime, connaissance qui présuppose la révélation. Connaissance qui est donnée dans la révélation et dans la foi. Je dois arrêter, je crois. Nous continuerons demain.
Mai 1915, mai 1983, deuxième conférence.
Nous faisons donc de l'obéissance à la sagesse, hein, n'oubliez pas. L'obéissance étant l'exercice et la sagesse étant le sommet donné gratuitement à ceux qui prouvent leur bonne volonté. C'est vrai que c'est la manière pour nous de montrer que nous sommes des âmes de bonne volonté dans la mesure où nous obéissons. Alors, c'est par là que nous sommes ouverts au don de sagesse. Et le don de sagesse vient éclairer de l'intérieur l'exercice de l'obéissance, ce que nous essaierons de comprendre demain. Comment expliquez-vous que nous ayons les dons du Saint-Esprit avec la grâce et que bien qu'étant en état de grâce, les dons n'agissent pas? Là, je dis que les dons agissent bien plus que nous ne pensons. Saint Thomas nous dit que nous ne pouvons pas assister 5 minutes à une messe, à une Eucharistie, sans que le don de piété soit là pour nous aider. Alors, si ce matin vous avez assisté pendant 5 minutes avec un peu de ferveur à l'Eucharistie, ça prouvait que vous étiez porté par les dons. Mais vous n'êtes pas aperçu. C'est extraordinaire, ça. Et je crois que c'est très vrai. Je crois que c'est très vrai qu'on ne peut pas vivre sa vie, vous dites, sa vie contemplative, sa vie religieuse, avec un peu de joie, sans que les dons du Saint-Esprit soient là. On a un peu de joie dans l'exercice de la charité fraternelle. Le don de piété est là. On a un peu de joie, à certains moments, d'obéir, d'offrir à Dieu un bel acte d'obéissance, sans que le don de conseil est là. Mais il y a un régime des dons qui est suavitaire, et un régime des dons qui est fortitaire. Alors nous, comme toujours, nous ne comprenons que le fortitaire. Et nous avons beaucoup de peine à comprendre le suavitaire. Quand l'Esprit Saint nous prend avec suavité, on croit qu'il n'est pas là. Et je pense, je donne là un exemple parce que ça me fait tellement penser ça. Vous savez, quand un gosse commence à marcher, la mère est là pour être tout proche pour le recevoir s'il dégringole. Elle est là derrière. Elle est prête à le recevoir s'il tombe. Le gosse s'en aperçoit pas. Et je crois que le Saint-Esprit nous porte comme ça. On ne s'en aperçoit pas. Tellement c'est suavitaire. L'Esprit Saint est plus nous que nous. Il est plus notre âme que notre propre âme, n'est-ce pas ? Alors il nous porte avec suavité, mais il agit. Alors je crois que les dons du Saint-Esprit, pour quelqu'un qui se donne au Seigneur, donc je prends pour la vie religieuse, mais je dirais pour toute vie chrétienne, pour quelqu'un qui veut vivre sa vie de consacré, sa consacrée de baptisé, donc sa vie de chrétien. Alors, celui qui veut vivre une vie contemplative, celui qui se donne à Dieu totalement pour mener une vie contemplative, mais on ne peut pas faire un acte d'entrée en vie religieuse sans qu'il y ait l'exercice des dons du Saint-Esprit. C'est bien évident. La première fois que vous avez mis les pieds à Bethléem, l'Esprit Saint vous a poussé. Ça, c'est sûr. Autrement, vous ne seriez pas resté 5 minutes. Donc il vous a poussé, il vous a fait rester. Puis vous êtes revenu. C'est l'Esprit Saint. Autrement, vous ne seriez pas revenu. Et c'est l'Esprit Saint qui vous maintient. Autrement, vous ne seriez pas là. La fidélité. Mais c'est l'Esprit Saint qui est là, qui nous donne cette fidélité. Le suavitaire, tu vois. Il nous maintient dans une continuité. Alors, les dons sont beaucoup plus en exercice que nous le pensons, mais nous ne le sentons pas toujours. À certains moments, nous le sentons d'une façon plus expressive, plus forte, parce que l'action de l'Esprit Saint passe le mur du son pour nous, c'est-à-dire il entre dans notre psychologie. Il faut faire l'inverse du mur du son. Mais c'est exactement comme ça. Il agit beaucoup plus que nous le pensons. Parce qu'il agit suavitaire. Alors on ne s'en aperçoit pas. De temps en temps, il y a une petite action sur notre psychisme. Une rectification de notre psychisme, une rectification de notre intelligence, une rectification de nos passions. Alors à ce moment-là, nous le sentons. Mais c'est comme ça que je réponds. Certains saints qui sont dans la nuit ou la sécheresse n'avaient-ils pas les dons agissant en eux? C'est bien évident. Quand vous êtes ut humanum devant le Seigneur, c'est l'action de l'Esprit Saint. Parce qu'il faut être transformé. Ut humanum, normalement vous n'êtes pas de cette manière-là. Alors le don du Saint-Esprit nous met dans cette attitude de passivité et d'extraordinaire passivité. La sécheresse peut être ça et la nuit peut être ça. Et c'est l'action de l'Esprit Saint. C'est pas toujours lumineux le Saint-Esprit. Il agit comme une taupe. Alors il agit de l'intérieur, il agit souverainement de l'intérieur. Et vous vous apercevez qu'il agit par les effets, par derrière. Et c'est souvent les autres. C'est très curieux. On est témoin de l'œuvre du Saint-Esprit dans l'âme de ceux qu'on connaît. Et ceux qui connaissent, ils disent « qu'est-ce qui se passe ? On ne voit pas. » Donc vous voyez, les sécheresses, c'est l'action de l'Esprit-Saint. Alors il faut évidemment comprendre qu'on tend toujours vers quelque chose de plus, on désire toujours aller plus loin. C'est l'action de l'Esprit-Saint de nous empêcher de plafonner. Quand nous acceptons de plafonner, ça ne va plus. Quand on accepte de s'arrêter, ça ne va plus. Si le Seigneur suspend ses dons et que l'on est obligé de ramer, oui, l'exercice de la volonté, nos facultés, bien que sous les dons, n'est-il pas aidé par le Saint-Esprit quand même ? Oui, parce que nous avons une bonne volonté qui demeure. Si nous sommes dans un état de grâce, c'est bien évident. Nous sommes dans un état de grâce. La grâce agit de deux manières différentes. Elle agit en connaturalité avec notre conditionnement humain, et la grâce agit en dépassant ce conditionnement. Alors comprenez bien, quand elle agit avec le conditionnement, elle agit toujours en nous finalisant. Hein. Le propre de la grâce est de tout le temps nous mettre face au Père qui nous attire. Donc c'est l'attraction du Père. La grâce nous fait vivre de l'attraction du Père. Et de l'attraction du Christ crucifié. Et de l'attraction du Christ, il est vivant. Nous vivons cette attraction. Alors cette attraction, elle a deux modalités différentes. Elle a une modalité qui respecte notre conditionnement humain. Nos lambinements humains. Nos lenteurs humaines. Notre tempérament. Il y a des gens lymphatiques qui sont quand même bénis par Dieu. N'est-ce pas ? Il y a des lymphatismes effrayants. Comme on disait, il y en avait comme ça un bon frère, je ne dis pas, il est encore vivant, mais un père respectable. Alors on disait toujours, en vie commune, on a toujours l'impression qu'il tire un chaland. Vous savez, il y a un rythme particulier de ceux qui tirent le chaland. Il ne faut pas aller trop vite, il faut aller lentement. C'est quelqu'un du Nord qui dit ça, parce qu'on voit ça en lente, il tire ça, lentement. Il y en a qui avancent comme ça. Alors évidemment, il y en a qui sont des petits pur-sang. Alors c'est autre chose. Hein. Ils sont nés en Afrique, ils sont nés en... Alors c'est une espèce de rapidité extraordinaire. Mais quelle est l'action du Saint-Esprit ? Est-ce que c'est le chaland ou le pur-sang ? Deux tempéraments différents. Le Saint-Esprit peut très bien agir à travers ces deux tempéraments. C'est le conditionnement humain. Nous avons un conditionnement rapide ou nous avons un conditionnement lent. Or, en vie commune, nous sommes attelés au même tandem. Et c'est pour ça que, de temps en temps, c'est pas commode, que voulez-vous. Il y en a qui agissent avec rapidité. Le tout, c'est de ne pas juger. Est-ce que celui qui tire le chaland, est-ce que c'est le Saint-Esprit ? Celui qui est rapide, est-ce que c'est le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit peut s'accommoder aux deux. Le Saint-Esprit prend la couleur du terrain dans lequel il agit. C'est ça que je dis, c'est comme une taupe. Il prend la couleur du terrain dans lequel il agit. Et alors à ce moment-là, il respecte notre conditionnement. C'est l'action normale, habituelle de la grâce. Et puis il y a l'action de la grâce, alors qui nous fait dépasser notre conditionnement humain qui nous donne quelque chose qui n'est plus de nous, alors qui nous met selon le vol de l'Esprit-Saint. Et alors à ce moment-là, on est sous le pennage de l'aigle. C'est la parole de l'Écriture. Les petits du vautour qui apprennent à voler. Et nous sommes comme ça. Les anges doivent voir ça de temps en temps. Ils regardent tous ces novices qui sont sous pénage de l'aigle. Alors ils doivent se dire, pourvu qu'ils collent bien au... Allez, vous y dégringolerez d'un seul coup, n'est-ce pas ? Quand on est sous le pénage de l'aigle, on est sous le rythme de l'Esprit-Saint. Et puis de temps en temps, l'Esprit Saint nous dépose tout en haut d'un pic. Il nous laisse là. On ne sait pas quoi faire. Descendre, c'est impossible. Monter, c'est encore plus impossible. Alors on est complètement dépaysé. Ça peut arriver, ça. Et ça arrive, ces choses-là. L'Esprit Saint nous a transportés là. Et puis nous laisse. Pour que nous comprenions bien que ce n'est pas nous qui avons fait ça. Et qu'à ce moment-là, alors on le supplie. Alors on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est de se mettre à genoux et puis dire, Saint-Esprit, venez me prendre, il n'y a que vous. Hein, il n'y a que vous, autrement, je ne sais pas quoi faire. Et on supplie, et Saint-Esprit peut nous laisser assez longtemps comme ça. Pour qu'on le prie davantage, parce qu'on ne sait plus. Reculer, c'est impossible, avancer, impossible. Là, on ne sait pas quoi faire. Et bien, on a l'impression que personne ne nous comprend. Ce qui est encore le mieux. Et on est là. Et le Saint-Esprit, alors, à un moment donné, nous reprend. Vous voyez, l'hélicoptère divin. N'est-ce pas ? Qui nous reprend, qui peut seul nous prendre cette situation-là, et puis nous remettre, alors, dans un haut plateau magnifique, extraordinaire, là, on n'a plus qu'à marcher. Et c'est magnifique, la conduite du Saint-Esprit, si on la voyait bien. De temps en temps, il nous fait un tout petit peu comprendre. Puis de temps en temps, c'est à travers le brouillard de la foi, on voit rien du tout. On a même l'impression que le brouillard augmente furieusement. C'est vrai que c'est le brouillard de la foi. L'Esprit nous fait marcher à travers la foi. C'est dans la foi, les dons du Saint-Esprit ne suppriment pas la foi. Au contraire, permettent qu'on voit mieux ce que c'est que la foi. C'est-à-dire qu'on voit mieux qu'on est dans les ténèbres. Et on avance à travers ces ténèbres. Oui, c'est pas du tout quelque chose qui nous donne une lumière. Vous voyez, une lucidité psychologique, c'est autre chose. Il y a une certitude de l'amour, qu'on est bien conduit par l'Esprit Saint, qu'on est bien sous la conduite de l'Esprit Saint, mais on ne voit pas. Et le Saint-Esprit, quand il nous conduit, jamais ne nous dit où il va. Jamais. C'est la différence avec le don de prophétie. Le don de prophétie, vous savez, tandis que dans la foi, vous ne savez pas. On est né de l'Esprit, on entend la voix du vent, et on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Ça, c'est notre Seigneur qui nous le dit. Et donc, on est tout le temps dans cette attitude de savoir, on ne sait pas d'où. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on est sur un pic. On ne sait pas, on ne voit pas. On est dans la foi. Ça, c'est l'action propre de l'Esprit Saint. Vous voyez, l'action des charismes donne des lumières extrinsèques à la foi. C'est le propre des charismes. Des lumières extrinsèques à la foi. Alors, des lumières extrinsèques à la foi, qui sont des lumières prophétiques, qui sont extrinsèques à la foi. C'est pour ça que quand vous êtes en face de quelqu'un qui est prophète, et ça ne vous oblige pas de croire à ce qu'il dit au point de vue de la foi. Alors que c'était à l'intérieur de la foi, vous devriez le recevoir. Quand vous êtes en face de charisme, de révélations privées, ce qu'on appelle les révélations privées, quand vous êtes en face des révélations privées, ce n'est pas objet de foi. Parce que ce sont des lumières en dehors de la foi. Tandis qu'au contraire, toute l'action de l'Esprit Saint en nous, c'est toujours à l'intérieur de la foi. C'est à l'intérieur de la foi que l'Esprit Saint nous pousse, nous conduit. Et il y a là une très grosse différence. Et on le saisit bien, ça. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention entre l'action charismatique de l'Esprit Saint et l'action souterraine, substantielle des dons du Saint-Esprit. On peut être revêtu d'un charisme, ça se peut, mais faisons attention. Ne confondons pas l'action charismatique et l'action des dons du Saint-Esprit. Ça, c'est très très dangereux de confondre les deux. Je crois que c'est très périlleux. Parce qu'alors on tomberait dans l'illuminisme. Et au fond, l'illuminisme condamné par l'Église, c'est un peu la confusion des deux. On a des lumières, oui, mais on a des lumières extrinsèque à la foi. On peut avoir des lumières comme ça. Le Saint-Esprit peut nous donner certaines lumières. Mais attention, il ne faut pas les confondre avec les dons du Saint-Esprit. Alors, si le Seigneur suspend ses dons et que l'on est obligé de ramer, l'exercice de la volonté de nos facultés, bien que sans les dons, n'est-il pas aidé par l'Esprit Saint quand même ? Si nous sommes en état de grâce et si nous sommes de bonne volonté. C'est ça, être en état de grâce. n'avons qu'un seul désir, c'est accomplir la volonté du Père. Et à travers toutes les difficultés, en ramant autant qu'on peut et avec tous nos efforts que nous faisons. C'est vraiment l'action des vertus théologales. Les vertus théologales ont un exercice qui peut être sans les dons. Ça, c'est sûr. Les vertus théologales ne s'exercent pas tout le temps avec les dons. C'est pour ça que je dis, il y a deux exercices. Un exercice qui est en connaturalité avec notre prudence et un exercice qui est divin par les dons du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que ça ne veut pas... Vous voyez, il peut y avoir un mérite très grand à certains moments de ramer. Et le Saint-Esprit peut exprès nous laisser. Ça ne veut pas dire qu'il nous aime moins. Pas du tout. Il veut voir si on reste une âme de bonne volonté. En ramant comme un pauvre type. C'est l'exercice du Saint-Esprit. Ou bien nos facultés dans leur exercice sont-elles livrées à leur propre fin humaine? Non, non. C'est la grâce. La foi, l'espérance et la charité. Il y a deux exercices. Deux exercices des vertus théologales. Et de tous les dons. C'est très important, ça. Pour ne jamais juger de l'extérieur. Et on le sent bien dans notre vie. Il y a des jours où c'est plus dur. Il y a des jours où c'est vraiment très dur. Puis il y a des jours où c'est facile. C'est les dons, ça. C'est les dons. Dieu nous donne un tout petit peu de facilité pour avoir un peu de repos. Tandis qu'il y a des jours où il n'y a pas de repos du tout. C'est laborieux. Puis alors, il y a des imaginations dans tous les sens. On est pris par ces imaginations. On devient, on ne sait plus où on en est. Tellement l'imagination tourne autour. Alors on rame en fixant les choses, mais l'imagination dans tous les sens. On dit, qu'est-ce que je vais devenir, ça? La barque est en train de sombrer. Et on dit, Seigneur, réveille-toi quand même. Et on demande au Saint-Esprit de se réveiller. Et on a beau crier et demander au Saint-Esprit de se réveiller, comme il dort jamais, bien ça ne le réveille pas. Et c'est vrai, le Saint-Esprit, il est toujours présent avec un désir, mais il y a ce rythme du Saint-Esprit. C'est extraordinaire, ça. Et c'est l'action du Saint-Esprit sur nous, c'est merveilleux d'essayer de comprendre un tout petit peu. À certains moments, on devine. On voit un tout petit peu. Et la chose merveilleuse dans la vie commune, c'est qu'ordinairement, on voit mieux l'action de l'Esprit Saint chez notre frère ou chez notre sœur que sur nous-mêmes. On dit, c'est merveilleux. Comme il y a des voiles merveilleuses. Tu sais, la vie commune, c'est quand vous regardez un petit lac en plein été, où il y a des petits bateaux avec des voiles, c'est comme ça, c'est extraordinaire. On voit tout. C'est beau comme spectacle, hein, de regarder tous nos frères ou tous nos sœurs, de les regarder sous l'action de l'Esprit Saint. Une journée radieuse, un jour de fête, un jour de l'Ascension, un jour de la Pentecôte. Demandez à la Vierge Marie d'avoir cette vision. Faut pas imaginer, hein, parce qu'il faut que ce soit sous l'action de l'Esprit Saint. Alors on voit que c'est étonnant voir comment l'Esprit Saint conduit chacun. Et ça se voit mieux, je vous dis, chez le voisin ou la voisine. Souvent. Parce que l'Esprit Saint est mieux nous laisser un peu dans l'obscurité. C'est mieux ça. C'est mieux. Vous savez, si vous disiez, moi je suis tout le temps mu par le Saint-Esprit. Tout ce que je fais, c'est le Saint-Esprit qui le veut. Je suis infaillible, c'est extraordinaire. Il n'y a eu aucune ratée dans ma vie. J'ai toujours bien pris les tournants, bon moment, et j'ai bien vu que je n'écrasais personne. Non, c'est pas comme ça. De temps en temps, il y a des petits accidents. Hein. S'il y a eu un coup de frein qu'on n'a pas donné au bon moment, puis alors. Bon, il n'y a pas d'autres questions? Oui, ah tout à fait. Ah oui, suaviter, être fortitaire. Il y a les deux. Quand on rame. Il y a l'exercice des vertus, mais pas des dons. Ah, ils sont présents, mais le Saint-Esprit se repose. Il n'agit pas, il nous laisse exprès. Dans notre régime, prend pour que nous prions plus et pour que nous comprenions davantage notre pauvreté. Il manque de vin à Cana, hein, c'est ça que ça veut dire quand même. Il manque de vin alors que normalement il ne devrait y avoir du vin.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il est là, il n'agit pas.
Mais il est là, il n'agit pas, il est présent, il est toujours présent en nous.
La présence du Saint-Esprit en nous ne dépend pas de l'exercice des dons, heureusement. La présence du Saint-Esprit, c'est la grâce sanctifiante. Par la grâce sanctifiante, le Saint-Esprit habite en nous. Il habite en nous. Nous sommes le temple de l'Esprit-Saint par la grâce et par l'exercice de foi, d'espérance et d'amour. Et cet exercice peut être, selon un mode rude, chaotique, et puis peut-être selon un mode suave, et selon un mode héroïque de force, fortitaire. Vous voyez ? Vous avez toutes les modulations. Oui. Et...